première des choses, j'ai lu quelques résumés sur l'économie esthétique. Votre ouvrage qui a été publié, mais qui a été choisi parmi les coups de cœur du monde. Ça parle de quoi essentiellement?
L'économie esthétique est le troisième opuscule d'une série de livres que je fais ces années-ci sur la question des économies au pluriel. Je m'intéresse dans chaque ouvrage, un peu comme dans l'esprit d'un séminaire, sur les usages du mot économie dans notre histoire, dans notre tradition, indépendamment de ce qu'en ont fait les sciences économiques. Les sciences économiques ont contribué à faire du mot économie un terme qu'on associe spontanément à l'argent, à la production, à la distribution, à la consommation, à la thésaurisation, éventuellement même au capitalisme lui-même. On en a fait un synonyme. Alors que le mot économie, quand on l'étudie, quand on étudie son histoire, et pas seulement son étymologie grecque, mais son histoire, ce mot a été central dans des disciplines aussi diverses que les sciences de la nature, la rhétorique, la théologie, l'esthétique, la psychologie, la psychanalyse, les mathématiques, la logique, le droit, la philosophie, la sociologie. Dans un sens spécifique. C'est qu'à chaque fois, le mot économie renvoie à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'argent, la production, la distribution et les profits. Ça, c'est un usage tout à fait spécifique et régional et particulier du mot économie, là, qu'on est habitué d'user.
Sauf que là, vous avez expliqué ma curiosité. Vous avez dit qu'il y a un usage particulier en psychologie et en théologie. Je suis curieux de savoir.
Les pères de l'Église, à commencer par Paul, Saint Paul, cité dans le Nouveau Testament, parlent d'économie au sens où l'économie, pour les pères de l'Église, la chose se développe chez Tertullien ou Hippolyte ou Jean Chrysostome. Le mot économie renvoie au rapport qu'il y a entre des institutions sociales, par exemple l'Église, mais ça peut être aussi l'État, ça peut être l'université, ça peut être les institutions judiciaires, le lien entre les institutions et les principes qui les autorisent. Le principe, lui, est invisible. Ça peut être Dieu, ça peut être la démocratie, ça peut être la justice, ça peut être un certain nombre de concepts auxquels on est habitué. Ça, c'est la dimension invisible et abstraite. Et l'institution elle-même, dans son incarnation sociale, au sens où elle a pignon sur rue, où elle est représentée par des êtres de chair, elle renvoie à ce qui est immanent à l'histoire. Bon. Et l'économie, c'est le lien entre les deux. S'il n'y a pas d'institution incarnée, on n'a pas accès au concept. S'il n'y a pas de concept, l'institution incarnée n'a pas d'autorité. Et donc, ce rapport-là, ce va-et-vient permanent s'appelle économie, d'abord pour les pères de l'Église, mais cette notion-là peut être utilisée aujourd'hui d'une manière tout à fait laïque et large. Et je me suis intéressé à elle jusqu'à des personnages comme Blaise Pascal au XVIIe siècle. Donc ça, c'est un exemple d'un usage du mot économie qui a existé comme tel. C'est pas moi qui dis « Ah tiens, on aurait pu appeler ça économie ». Le mot économie est déjà dans les textes. Et c'est la même chose en esthétique ou des plus près de nous, au XXe siècle, mais cela a aussi une histoire qui remonte jusqu'au XVIIe, des gens comme Gérard Genette ou Roland Barthes ou Jacques Rancière ont pensé l'esthétique à partir d'un vocabulaire économique, en disant l'économie d'un récit, l'économie d'une œuvre, comment l'agencement d'une œuvre explique l'effet qu'elle suscite, explique son fonctionnement, explique sa composition. Ça s'appelle l'économie. On va dire un texte est économique, c'est une façon de dire, avec peu de moyens, il arrive à de grands résultats. Donc, le mot économie a une histoire plurielle. Et je suis dans ce que j'ai appelé un feuilleton théorique, là, à peu près à une fréquence semestrielle. Je suis l'évolution de ce mot dans l'histoire et le troisième opuscule portait sur l'esthétique, c'est-à-dire les arts, la rhétorique, les formes autour d'œuvres de notre tradition. Et je me suis intéressé au fait que pour les décrire, pour les penser, les commentateurs, les critiques d'art, autant que les artistes et artisans eux-mêmes, ont parlé dans l'histoire d'économie. Vous avez Robert Bresson, par exemple, qui est un grand réalisateur français du XXe siècle, qui parlait de l'économie de ses films, l'économie à l'œuvre dans ses films. C'était dans ses notes de travail. Il voulait être économe. En peu de moyens, on peut comprendre que quelqu'un est criminel simplement en le montrant se laver les mains pleines de sang, par exemple, plutôt que de montrer tout un meurtre. Bon, c'était être économe, c'était un exemple de l'usage du mot, mais cet usage-là est très riche et je pourrais pas le résumer maintenant. Il reste qu'on a dans cette histoire-là esthétique des cas d'usage tout à fait pertinents. Et donc j'en suis là. Mon prochain opuscule s'intitulera l'économie psychique, et il portera lui sur la notion d'économie psychique, notamment chez Sigmund Freud en psychanalyse, en métapsychologie plus précisément, et sur la façon dont l'appareil psychique hein, qui nous anime comme sujet, hein, qui est un principe vital en fait, l'appareil psychique travaille à négocier. Hein, le rapport entre des pulsions qui sont affirmatives en soi, qui sont inconscientes et qui sont chargées d'affect et d'énergie, et un monde moral qui, lui, appelle à la répression, au refoulement, ou à la censure, à la contenance. Et l'économie, chez Freud, porte sur ce rapport entre la volonté d'investir des objets en dépensant des pulsions et la nécessité de financer un refoulement pour faire en sorte qu'on ne se permette pas tout socialement de façon à éviter des réprimandes hein, qui peuvent être douloureuses. Donc ça s'appelle l'économie. Et ce concept-là remonte à des usages qui ont eu lieu pendant des siècles en biologie, hein, et notamment par rapport à la biologie et aux affects.
D'accord, mais quand est-ce qu'on commence à utiliser le mot économie comme on le connaît plus aujourd'hui, c'est-à-dire en lien avec l'argent, avec le capitalisme?
D'une manière un peu métaphorique, des auteurs à partir du 16e siècle, 17e siècle parleront d'économie politique, mais à ce moment-là, on est plus près de la science politique, de quelque chose qui l'annonce, hein, sur le droit, les lois, toute la gestion gouvernementale naissante, là, d'une manière assez balbutiante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la notion d'économie, comme on l'utilise aujourd'hui, provient beaucoup des sciences de la nature, étonnamment. Avant le 18e siècle et même le 19e, pour parler d'écologie, ce qu'on appelle l'écologie aujourd'hui, on disait l'économie de la nature. Chez Carl von Linné, chez Gilbert White, chez Edward Bliss, et même chez Darwin, et même chez Fairfield Osborne jusqu'au 20e siècle, quand on parlait de la nature et de son fonctionnement et de l'agencement des espèces et de la cohabitation d'espèces dans des aires du vivant, on disait l'économie de la nature. L'économie consistait à penser des relations. Bon. Les premiers économistes, hein, c'est-à-dire les premiers qui se sont appelés économistes, étaient des gens qui ont associé ce savoir-là à un marché en partant de l'agriculture, puisqu'il s'agissait de connaître le fonctionnement des espèces, hein, autant végétales qu'animales. Hein, on s'est mis à utiliser les connaissances qui avaient été développées dans le domaine des sciences de la nature au titre de l'économie de la nature hein, pour les instrumentaliser de manière très fonctionnelle hein, pour permettre à les agriculteurs de générer des excédents qui profiteraient à un marché qui serait comptabilisé à partir de l'argent. Et Adam Smith, qui a bien connu ses premiers économistes français au 18e siècle, a subi leur influence lors d'un séjour en France qui a duré quelque temps, et il est retourné en Angleterre fonder cette économie libérale là, qui est devenue le référent de la discipline qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'économie. La filiation, la genèse de cette économie-là, cette science économique, cette prétendue science économique, aujourd'hui complètement dominé le champ des usages du mot économie, provient de cette sphère particulière de l'économie qui est l'économie de la nature chez les naturalistes.
Et comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au mot économie, pas nécessairement à l'économie comme telle?
J'ai fait une thèse sous la direction de Jacques Rancière en France et en Allemagne au tournant des années 1990 et 2000. Qui portait sur une œuvre de Georg Simmel, un philosophe allemand considéré sociologue dans la francophonie, laquelle œuvre s'intitulait « Philosophie de l'argent ». Bon. Et pour comprendre ce dont parlait Simmel, parce que lorsque Simmel parlait d'argent, il évoquait beaucoup des romanciers, des sociologues, des théologiens, des historiens, et il en parlait d'une manière très large. J'ai fini par comprendre que pour cet auteur-là, l'économie renvoyait à un très grand nombre de domaines dans l'univers de la culture autant que dans celui de la science. Et j'ai fini par comprendre, à force de lecture, surtout dans le monde allemand au début, que le mot économie était tout à fait polysémique, hein, qu'il avait plusieurs sens. Et que Zimmel écrivait à une époque où ces nombreux sens avaient encore une actualité. Et j'ai eu à le déduire, ça, pour comprendre son texte. Et donc, ça a fait en partie l'objet de réflexions dans ma thèse, mais qui était assez embryonnaire. J'ai soutenu ma thèse à l'Université de Paris 8 en 2004. Mais je me suis promis qu'un jour, je m'étais promis alors qu'un jour, je ferais ce travail philologique et philosophique sur le concept d'économie. Je m'y consacre maintenant, 15 ans plus tard.
D'accord. Être sur la liste des coups de cœur du quotidien Le Monde, ça doit être quand même tout un honneur.
Ça nous laisse pas indifférents, évidemment, mais comme pour les prix, ces mentions en disent toujours plus long sur les jurys, les équipes de rédaction que sur les gens mentionnés ou les lauréats eux-mêmes, là. Donc, c'est ce qu'on comprend, c'est aussi où en est une rédaction, comme c'est du Monde, sur des questions nature philosophique et sociale. Donc, j'étais ravi de ce point de vue-là d'apprendre que un journal comme Le Monde s'intéresse à ces questions-là de cette manière-là, et cela témoigne au fond de l'état d'une conscience sociale. On peut dire, bon, mais la société en est là d'une certaine façon, les journalistes enfin en sont le reflet. Par ailleurs, moi, je m'adonne à être très présent en France. J'écris dans le monde diplomatique de temps à autre. J'ai déjà fait paraître aussi des textes dans Le Monde ou dans Libération, donc j'ai déjà une présence en France, donc c'était bon, une façon de peut-être de marquer cette présence.
D'accord. Qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? D'articles sur l'économie, sur d'autres mots peut-être?
Il y aura une petite pause cet automne parce que je fais paraître dans un tout autre contexte un essai sur l'histoire des classes. Par la suite, je reprendrai feuilleton théorique avec philosophie, avec économie psychique. De la connaissance et enfin économie politique. Ce sont les trois derniers opuscules du feuilleton.
D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.